Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
On est en retard, allez, on se dépêche, je suis à la bourre. Quel parent n'a pas un jour senti que ces petites phrases revenaient un peu trop souvent dans son quotidien? Les Français courent comme nombre de leurs contemporains. Le temps semble devenu une denrée rare, ou plutôt le sentiment d'avoir le temps. Aujourd'hui, certains en font même un choix de vie radical. On appelle ça le slow parenting, pour reprendre un anglicisme. Dur pour les parents, mais aussi pour les couples qui ont parfois le sentiment qu'on leur fait la leçon quand ils font déjà de leur mieux. Courage! Vite coupe, vite famille, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, nos deux experts, compères, Marie-Aude Binet, conférencière, sexologue, conseillère conjugale et familiale. Bonjour Marie-Aude.
Bonjour Emmanuel. Bonjour.
Et Sébastien Dex, sociologue et psychopraticien. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Alors, vous allez avoir du pain sur la planche, parce que là, je pense que nombre d'entre nous se sont sentis concernés. Vous l'aurez compris, donc aujourd'hui, cette émission Vite Coupe, Vite Famille, on va parler du temps, mais aussi de l'espace. Voilà, temps et espace, c'est d'ailleurs un terme cher au pape François, qu'on pourra citer à ce sujet qui a une phrase, le temps est supérieur à l'espace. Tous pressés, alors c'est la première constatation. Est-ce que vous êtes reconnu déjà dans les trois injonctions? On est en retard, allez, on se dépêche, je suis à la bourre. Ou alors est-ce que vous êtes tellement parfait que vous le dites jamais, Marie-Aude?
Oh, mes enfants vous diraient que je le dis souvent. Voilà, dépêchez-vous, il y a l'école. Donc, bien sûr, je pense qu'on est, tous dans des vies qu'on pourrait ressentir comme compressées. Et à se dire comment je vais caser tout ce que j'ai à faire, ou toutes les personnes que j'ai à voir dans ma journée. Donc, on est tous interpellés sur notre manière de gérer le temps et de gérer aussi les espaces dans lesquels on vit, par lesquels on passe, parce que ça, en fait, ça concerne aussi la manière dont on va vivre les relations avec les autres et avec nous-mêmes. Quel temps on se donne, quel temps on donne aux autres, quel temps, on est sur une radio chrétienne, on donne aussi à la prière, à un temps de méditation. Voilà, comment est-ce qu'on répartit nos temps et dans quels espaces on peut vivre.
Sébastien, même si vous habitez en partie en Ariège, est-ce que vous aussi ça vous arrive d'être à la bourre, comme on dit simplement?
Alors, je dirais que j'ai été très très en retard dans le passé, mais maintenant j'ai une devise, c'est se hâter lentement. C'est-à-dire que j'ai développé, un peu consciemment, mais aussi un peu spontanément comme ça, une manière un peu lente de me déplacer, de vivre. Et en me rendant compte, et c'est là où il y a un petit piège en même temps, c'est que je fais beaucoup plus de choses en les faisant tranquillement que lorsque je speedais, comme on dit, ou lorsque je me pressais, parce que certainement j'étais beaucoup moins... peut-être présent ou opérationnel, je ne sais pas. Et c'est vrai que je suis un peu repéré, même dans mon environnement familial, social, professionnel, comme quelqu'un qui prend son temps. Ça, voilà. Et mon métier, je crois, m'aide à ça aussi. Moi, je fais de la thérapie familiale, par exemple, et il y a un thérapeute, Oslos, il s'appelle, il dit que plus il y a urgence, plus il faut ralentir. Donc, c'est intéressant par rapport au temps. Donc, quand il y a une crise conjugale dans mon cabinet, je peux très bien dire « Excusez-moi, là, il faut que j'aille aux toilettes » ou « Est-ce que vous voulez pas un petit café ?» Je romps un petit peu l'emballement du temps, on va dire.
Alors le temps, on va donner quelques éléments. C'est difficile, j'ai eu du mal à trouver des choses extrêmement précises, mais en tout cas, voilà ce que j'ai trouvé, sondage Ipsos récent, 2018, qui dit que 57% des parents culpabilisent de ne pas avoir assez de temps pour leurs bambins. Les femmes travaillent de plus en plus, je ne retrouve pas les chiffres, mais je crois qu'aujourd'hui c'est 83% des femmes,
93 je crois.
83 pour les 25-49 ans, alors que c'est 40%. Dans les années 60. Mmh. Je ne montre pas les femmes du doigt, mais évidemment, ça fait des agendas qui sont peut-être plus complexes qu'avant. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aussi les Français se plaignent donc de ne pas avoir assez de temps, et pourtant, par rapport aux autres pays de l'OCDE, ce sont ceux qui ont le plus de temps libre. Ce temps libre, cette fois, c'est une étude citée par le journal Le Figaro, assez récente. Ce temps libre est consacré, alors figurez-vous, au fait de dormir, les Français c'est des grands dormeurs, de passer du temps à table et de passer du temps pour ce qu'on appelle le travail domestique, c'est-à-dire les tâches ménagères, mais aussi du temps avec les enfants. Alors les Français donc, ont le sentiment de ne pas avoir assez de temps, mais dans le fond, ça ne serait pas les plus mal lotis. Vous, qu'est-ce que vous avez glané ou quel serait un peu votre regard, Sébastien Dax, qui est sociologue?
Alors je vais peut-être prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à tous ces sondages, parce que moi, quand j'ai préparé l'émission, ça m'a un peu, presque submergé. Parce qu'il y a des chiffres partout sur telle tâche, sur... Donc je me suis dit, hop, j'ai besoin de reprendre un peu de hauteur. Et quelque part, on se rend compte que la difficulté, on pourrait dire presque le côté anxiogène du rapport au temps, il naît finalement depuis les années 70, on va dire, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un éclatement vers l'individualisation du rapport au temps. C'est-à-dire que les temps collectifs, les temps sociaux, notamment le temps lié au travail, mais encore plus lointain, le temps par rapport aux saisons, par rapport aux récoltes agricoles, il perd, on s'est déconnecté petit à petit. On parle de désynchronisation, en fait, entre
donc
les rythmes...
On s'est déconnecté des rythmes naturels ?
Des rythmes naturels, des rythmes de l'activité, que ça soit agricole, et ensuite, après beaucoup de l'activité industrielle, les 3-8, par exemple, le 8h midi, 14h 18h, 6 jours sur 7, ça construisait notre rapport au temps en individuel. Alors que depuis les années 70, et notamment la crise du chômage, et après toutes les évolutions par rapport au temps de travail, et notamment les 35 heures et les RTT, on se rend compte qu'on nous demande individuellement de gérer notre propre temps. Et c'est ça, souvent, qui rend peut-être des résultats un peu paradoxaux ou un peu contradictoires. C'est-à-dire qu'on peut avoir du temps libre, mais ça peut être anxiogène de savoir qu'est-ce qu'on va en faire.
Vous voulez dire qu'avant, on était porté donc, par un rythme naturel et un rythme collectif, et qu'aujourd'hui, il y a une forme donc, d'individualisation du temps.
Tout à fait. Et donc, il y a une notion de responsabilisation de la gestion du temps à titre individuel. Et c'est très compliqué, c'est un management, on pourrait dire. Et là, les femmes, en plus, sont,
très exposées.
Très exposées, parce que c'est elles qui gèrent le temps, non seulement pour elles en tant que personne, mais la plupart du temps, le temps familial, c'est-à-dire le temps pour les autres personnes de la famille. Donc, elles ont une grande responsabilité là-dedans.
Plus le travail. Donc
plus le travail, oui.
La fameuse charge mentale.
Exactement.
Mariotte Binet, qu'est-ce que vous apporteriez comme éclairage aussi sur cette question? Je m'étais noté tous pressés, point d'interrogation.
Alors, je rejoins ce que dit Sébastien, c'est qu'en effet, maintenant, tout le monde a son temps à lui. Vous prenez une famille, monsieur a tel rythme, madame a tel autre rythme, et chaque enfant a son rythme. Alors, vous rajoutez le rythme professionnel et scolaire, mais le rythme des activités, mais aussi le rythme social. Et en fait, quand on mélange tout ça, on finit par se dire, mais quand est-ce qu'on se retrouve ?
Donc, on n'a pas tous le même tempo, si c'est ça.
Exactement. Alors déjà, il y a des rythmes personnels. Il y a des gens qui sont lents, des gens qui sont rapides. Il y a des gens qui aiment être suroccupés, qui sont hyperactifs, qui ont besoin d'être de coucouner chez eux. Donc déjà, dans un même couple, quand vous avez ces deux rythmes-là, il faut déjà arriver à s'accorder. Et puis après, il y a...
Les tempéraments, ça a toujours existé, Mario.
Le fait qu'on individualise autant, ça laisse la liberté, entre guillemets, de vivre son hyperactivité autant qu'on veut. C'est-à-dire en dehors de la maison ou dans la maison. Le nombre de fois dans mon cabinet où j'ai des hommes ou des femmes qui se plaignent en disant « Je rentre chez moi, j'ai le temps de rien faire avec tout ce que j'ai à faire. » Voilà. Ou alors à l'extérieur, je suis sollicitée, je ne sais pas dire non, j'ai des réunions tous les soirs, ou on sort tous les week-ends. J'entends « Oh, mais moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de rester tranquille dans mon canapé, mais les enfants sont tout le temps dans mes pattes, etc. » Ou alors, il faut sortir pour conduire nos trois enfants à leurs activités quatre fois par semaine.
Ah, les activités.
Voilà. Mais si vous voulez, il y a tout ça. Et on rajoute, en fait, c'est à un moment donné, c'est à quel moment on arrive à dire non à une sollicitation, à quel moment on s'écoute soi-même pour se dire « bon là je suis fatiguée » ou « là j'ai besoin de me tranquillité, j'ai besoin de me poser », parce qu'il y a quand même un impact sur la santé physique et psychologique. Et ça, l'OMS en a beaucoup parlé, de ces rythmes-là, parce que on n'est pas surhumain, et que si aujourd'hui on a beaucoup de situations d'épuisement ou de burn-out, aussi bien au foyer qu'en entreprise, c'est une de ces raisons-là, c'est-à-dire de ne pas arriver à gérer son temps.
Alors, je propose qu'on parle des écrans, parce que c'est un sujet qui nous intéresse tous, et je pense que nombreux sont ceux qui intuitionnent, qui a là peut-être une clé. Alors, je cite quelques chiffres que j'ai trouvés. Alors, c'est une étude qui n'est peut-être pas, qui aurait été peut-être à corroborer, il faut toujours faire attention avec les études. Une étude donc récente, AXA Prévention, sur donc le rapport des Français aux écrans. Quelques chiffres. 60% des personnes sondées diraient qu'elles ne peuvent pas passer une journée sans leur téléphone. Un tiers des Français se considèrent qu'ils sont dépendants des écrans, donc j'ai bien dit un tiers. 38% répondent aux textos en moins de 10 minutes. Et puis j'ai noté aussi, par exemple, 46% des Français vont avec leur téléphone portable aux toilettes et 85% des adolescents. Alors, est-ce que les écrans, c'est pas déjà une première, un premier levier d'action ? Est-ce que vous êtes surpris d'abord par ces chiffres, Sébastien Dex ?
Surpris maintenant, non, parce que quelque part... ça fait un peu partie du paysage actuel de l'imprégnation des écrans dans nos vies individuelles et quotidiennes. Donc, pas vraiment surpris. En plus, quelque part, cela reflète assez ce que je peux percevoir de par les personnes que j'accompagne. Que ça soit des ados, voire des enfants, des fois, ou des adultes. Parce que ça, c'est un point, je trouve, qui est important, c'est qu'on focalise beaucoup sur les risques par rapport aux adolescents.
Il faut commencer par éduquer les parents.
Mais éduquer les parents, ça devient très nécessaire et un peu obligatoire. Ce qui est intéressant par rapport à l'écran, je reste un peu en termes de sociologie, mais ça apparaît vraiment, on va dire, dans les années 90, en tout cas le téléphone portable. Et là, quelque part, on arrive au bout du processus justement de l'individualisation. C'est-à-dire que, par exemple, le fait que quasiment tout le monde qui a un smartphone va avoir un agenda synchronisé dessus, va avoir des rappels sur les tâches quotidiennes à réaliser, peut-être avec des porosités aussi sur l'agenda professionnel. Donc là, vraiment, on est dans un rapport de plus en plus justement individuel, encore autant. L'individualisation a franchi des étapes supplémentaires.
Mario de Binet, les écrans, est-ce que c'est de fait un premier levier d'action ? Est-ce que dans le fond, le rapport qu'on a à nos écrans peut nous aider à soit dégager du temps, soit avoir un autre rapport au temps ?
Alors en fait, les écrans, c'est non seulement un rapport au temps, mais aussi à l'espace. Sur un écran aujourd'hui, on trouve tout. Donc plus besoin de faire d'efforts pour aller se déplacer dans sa bibliothèque chercher un livre, pour aller en librairie, pour aller écouter de la musique à un concert. Donc on est déjà, on se confine dans un espace autour et dans son écran. Donc il y a déjà ce rapport-là. Ensuite, il y a le rapport au temps, avec aujourd'hui un accès ultra rapide à toutes les informations. Donc on le voit aujourd'hui dans la construction neurologique des enfants et des adolescents. On est sur des notions de rapidité. On zappe, on va vite. On a une multitude d'informations qu'il faut traiter en très peu de temps. Alors, ça a un côté... qui peut paraître efficace, mais qui en même temps entraîne le cerveau à ne plus savoir se poser, à ne plus savoir prendre du recul, de la distance. Ce rapport à l'espace fait que du coup, on est tellement plongé dans son téléphone portable qu'on ne voit plus ce qu'il y a autour de soi. Mmh. Et en plus, l'écran, c'est une vision plate. On n'a plus la vision en 3D.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement ?
Ben, plate, un écran, c'est plat, c'est très clair. Hein. Donc, du coup, on n'a plus la vision en 3D de son propre environnement. Il n'y a pas d'horizon sur un écran. Mmh. Quand vous regardez un paysage, vous allez même dans votre jardin, vous avez un horizon et vous êtes amené, avec vos yeux, à une certaine curiosité pour regarder dans l'arbre le petit oiseau qu'on voit à peine. Dans un écran, tout est d'un coup... à plat.
Alors on dit même que chez les plus jeunes, une surexposition, en fait, ça finit par, on en parlait en préparant l'émission, ça finit par imprimer un rapport au réel différent, c'est-à-dire
En fait, un rapport au réel, si je prends ce côté platitude et rapidité, c'est qu'on ne prend plus le temps de se poser pour être en relation avec l'autre et pour creuser dans la relation, c'est-à-dire aller en profondeur dans la discussion et dans le dialogue. Et il y a une superficialité qui déjà naturellement peut être présente dans les relations humaines, mais qui, je dirais, s'accentue. Et avec la difficulté, justement, d'accepter de creuser comme ça. Quelle est la nécessité ? Il suffit que tu me dises ça et ça me suffit. Comme je vais chercher l'information sur Internet et ça me suffit. Et donc, il y a une difficulté à exercer ce discernement ou l'esprit critique, en fait, par rapport à ce qu'on reçoit ou ce qu'on va chercher. Et ça a un impact réellement sur la qualité relationnelle avec les autres.
Alors, après la pause, on essaiera de voir donc tous les remèdes ou les astuces que vous pouvez nous donner. Juste pour finir, Sébastien Deck, sur ce sujet, donc moi, ce que j'avais lu, pour compléter ce que dit Marie-Aude, c'est que ça ferait une génération qui arriverait, on va dire, plutôt les 25, enfin 18-25, qui aurait du coup moins naturellement d'empathie à l'égard des autres, serait moins dans la relation et aurait comme un plus fort individualisme. Alors, ça fait un peu vieux schnock de dire ça, mais...
Il y a vraiment des faits, effectivement, qui nous montrent que la tendance va vers ces pertes-là qui sont liées à ce que l'empathie, quelque part, elle demande l'observation.
Et la relation de personne à personne.
Et la relation de personne à
sans
personne.
Sans écran interposé.
Il faut un minimum de temps pour pouvoir se poser avec une autre personne et prendre le temps de ressentir, d'éprouver, d'être en contact affectif et même cognitif de l'ordre de la pensée avec quelqu'un d'autre. Et là, par exemple, pour les auditeurs qui veulent se renseigner sur ça, il y a un livre qui s'appelle Les Barbares, de manière très provocatrice. C'est un
Alexandre Baricco,
voilà, exactement, qui est très intéressant parce qu'il montre comment finalement le temps et l'espace évolue aussi. C'est-à-dire que les philosophes ont été très précieux. Ils nous ont montré que le temps et l'espace, ce ne sont pas seulement des catégories qui nous entourent et qui sont immuables. C'est qu'elles existent aussi à l'intérieur de chacun de nos esprits, en fait, et que ces catégories, elles évoluent suivant les interactions qu'on a avec notre environnement. Par exemple, il y a des milliers d'années, le temps n'était vu que de manière cyclique. Quasiment. Et donc, ça avait aussi
une incidence
sur notre construction de notre rapport au temps. Le christianisme a été essentiel là-dedans parce qu'il a entraîné une certaine distinction au niveau du temps, la linéarité, par exemple, entre l'origine et la fin, mais aussi avec le temps et l'éternité. Donc, ça a fait beaucoup réfléchir et ça influe, bien sûr, sur notre manière de vivre et de percevoir le temps.
Et le pape François, donc, il rappelle souvent le temps est supérieur à l'espace, et je crois que c'est une de ses grandes devises de gouvernement. En tout cas, il invite aussi à réfléchir comme ça. Il laisse entendre, si je l'ai bien compris, qu'il ne faut pas chercher à résoudre les choses dans l'instant, à l'instant T, mais il faut initier des processus, et dans le temps, après, les choses changent. On va faire une première pause, et puis on va vous retrouver pour maintenant les remèdes après le diagnostic pour cette émission donc sur le temps et l'espace à l'intérieur de la vie de couple et de la vie de famille. Thank you.
Emmanuel Pella.
Vite coupe, vite famille, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec Marie-Aude Binet, conférencière, sexologue, conseillère conjugale et familiale, Sébastien Dex, sociologue et psychopraticien. Vous avez plein de casquettes et heureusement parce qu'il en faut beaucoup. Alors, les remèdes, on commence par la vie de couple. La vie de couple, il paraît que, en tout cas, pour ce qui est du temps et du partage des tâches, les choses évoluent. Les Français sont globalement satisfaits, le partage des tâches se font est de plus en plus effectif à l'intérieur des vies de couple. Je le dis en souriant, en tout cas dans les sondages que j'ai trouvés, il y a toujours des points de blocage sur le bricolage et sur le linge, semble-t-il. En tout cas, bon, c'est peut-être moins un sujet de dispute et de différend. Allez, qu'est-ce qu'il faudrait avoir en tête? Quelle serait, cher docteur, la prescription pour la vie de couple? Marie-Aude Binet.
Alors, et je parle en étant moi-même concernée, hein, d'accord, je reste très, très humble par rapport à ça. Il y a une chose que moi je fais avec mon mari, tous les dimanches soirs, nous nous retrouvons pour ensemble parler du planning de la semaine, voir comment on se répartit la conduite des enfants, comment on va se répartir justement qui va faire les courses, etc. On fait un point comme ça une fois par semaine, comme ça tous les deux nous avons, nous sommes en commun sur l'organisation du temps et sur les espaces qu'on va se réserver à tous les deux, qu'on va peut-être réserver aux enfants parce qu'il y a tel rendez-vous, parce qu'on a tel, il y a tel événement, voir aussi bah, si on a une sortie avec des amis. Et du coup, on se met d'accord, ce qui permet de passer la semaine beaucoup plus fluidement. Et en fait, on a opté pour ça parce qu'on s'est aperçu que si on prévoyait trop à l'avance, eh bien, on avait trop d'imprévus, ça pouvait être compliqué. Si on prévoit pas du tout, on finit par se chamailler parce qu'on pensait que l'autre, etc. Et ça permet d'avoir une discussion en amont. Et s'il y a besoin de rectifier dans la semaine, eh bien, on a une souplesse qui est apportée. Ensuite, je pense que chaque couple peut être en fonction de ce qui évolue chaque année, rediscuter de le soir quand on se retrouve, qu'est-ce qu'on fait. En fait, beaucoup de couples me disent on n'a pas le temps de se voir. Quand je leur demande à quelle heure rentrez-vous chez vous, à quelle heure couchez-vous les enfants, etc., en fait, souvent, je m'aperçois qu'ils ont au moins 2 heures sans enfants en ayant déjà tout plié. Je leur dis mais ces 2 heures, vous en faites quoi? On regarde la télé, on est sur notre téléphone ou on regarde l'ordinateur.
Donc finalement, c'est globalement les réponses.
Globalement les réponses.
Télé, ordinateur, téléphone.
Ah oui, il y a soit même les trois en même temps. Soit il y en a un qui est dans sa chambre en train de regarder un streaming sur son ordinateur pendant que l'autre regarde une émission à la télé.
On devrait faire comme dans les collèges en fait, on devrait confisquer les portables, non
c'est... Bah, en tout cas, il y a des collèges qui instituent des heures de lecture, on pourrait faire ça en famille, hein, tout à fait. Mais en tout cas, de se dire, on peut instituer aussi des jeux de société. Moi je dis au couple, jouez ensemble, faites un jeu de société le soir. Prenez le temps de manger ensemble, les enfants mangent avant vous et vous mangez ensemble. L'objectif c'est pas de prendre 2 heures pleines ensemble, parce que d'abord on peut entendre que chacun individuellement a besoin d'un temps pour soi. Et ce moment, il est essentiel à préserver. C'est la bonne santé pour personnel.
Se faire du bien un peu tous les jours.
Oui, et puis c'est entretenir sa propre santé. Hein. Mais après, il y a le temps qu'on prend en couple. Et il peut suffire que de 10 minutes. Mais 10 minutes, on est pleinement l'un avec l'autre. Où on peut dire quelque chose d'essentiel. Et s'il y a besoin de le creuser, on reprend un rendez-vous. On se dit, écoute, voilà, on a abordé ça, là, on n'a pas le temps ou c'est pas le moment. Parce qu'on peut ne pas être complètement disposé. Mais on en reparle vendredi soir, on se prend un temps que pour tous les deux. Et de se dire, quel temps effectif, réel de disponibilité, je peux offrir à l'autre, partager avec l'autre pour aller comme ça, dans un cœur à cœur. Et en plus, c'est un espace. Où est-ce qu'on le fait ? Dans la chambre, dans le salon, au restaurant, en allant se balader au cinéma. Cette notion d'espace est importante. Aujourd'hui, les couples souffrent de ne plus avoir d'espace intime. Avec des couples qui me disent les enfants rentrent dans la chambre n'importe comment. Il y a une femme qui se plaignait, elle dit je peux même pas aller aux toilettes dans la salle de bain sans qu'un enfant arrive. Je leur dis mais mettez un verrou. Ah bah oui, on n'avait pas pensé. Enfin, si vous voulez, les espaces intimes ne sont plus préservés. Donc les couples souffrent d'un manque de temps et d'espace. Et c'est en fait aux adultes de remettre en place ces références, ces repères, parce que les enfants eux-mêmes, surtout quand ils deviennent adolescents, ont besoin eux-mêmes d'avoir ces espaces intimes.
Alors c'est pas toujours simple, parce que ça dépend aussi de la taille de l'appartement. Hein. Tout le monde ne peut pas vivre aussi dans une grande maison.
Oui, mais même sans une grande maison, je vois des personnes, par exemple des familles monoparentales, où des femmes se trouvent à dormir dans le salon pour laisser la chambre à leurs enfants. Il peut y avoir des règles de vie communes. On se met d'accord sur des moments où la maman peut aussi être tranquille dans son salon. Elle peut mettre un paravent, un rideau, etc.
Sébastien, je ne sais pas si c'est à vous qu'il faut poser la question, mais quand même, j'essaie de vous lancer la patate chaude. J'avais entendu, il y a un groupe qui existe dans l'Église, enfin un mouvement, les Équipes Notre-Dame, connu oui. peut-être de certains auditeurs, mm-hmm. Je crois que le fondateur, le père Caffarel, avait, un horizon qui proposait aux couples, fort exigeant, une heure par jour, une soirée par semaine, une journée par mois, un week-end par trimestre, une semaine par an. Parfois, quand on dit ça, ça paraît mission impossible. Est-ce que, dans le fond, c'est l'horizon qu'il faut avoir en couple, j'entends, hein ?
Oui, oui, pour le couple. Moi, peut-être, ça c'est mon esprit un petit peu non directif, je vais dire que ce qui est important, c'est peut-être pas quel est l'horizon, mais c'est d'en avoir un, en tout cas. Donc, je trouve assez justifié et légitime cette proposition.
En tout cas, il y a le rythme jour, semaine, voilà. Mois, année, c'est trimestre.
Quelque part, ce qui est important là-dedans, je pense, à retenir, c'est l'histoire de, quelque part, de créer des rites et des rituels. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, le risque par rapport au temps, c'est que finalement, ce qu'on va en faire ne dépend que de moi. Alors que si je crée un rituel dans mon couple, quelque part, le rituel, il va devenir un peu une instance. Alors, peut-être que c'est un mot qui ne plaît pas, mais de contrainte. Mais la contrainte, elle a du plus et du moins.
Oui, ou une habitude vertueuse.
Une habitude,
aussi, hein,
une routine aussi, créer quelque chose qui, à un moment donné où l'individu, on souffle, on n'a pas envie, se dit, il y a peut-être une fidélité à avoir avec cet espace et ce temps que l'on a créé tous les deux, par exemple.
Alors l'horizon, en tout cas, l'horizon, c'est quoi ? C'est de se dire qu'il faut sanctuariser, on le dit souvent dans cette
sanctuariser,
émission,
sanctuariser
des
bon
moments
tout
pour,
à fait.
Pour la vie de couple, déjà.
Oui, je pense que c'est important. Alors après, chacun, dans sa situation de vie, dans ses conditions physiques, mentales, sociales, financières, tout ça, va créer l'espace qu'il peut tenir, parce que c'est important d'être réaliste et pas d'être dans un idéal. Parce que moi, j'avais noté un des premiers mots, il me semble, qui est important, c'est déculpabiliser. Parce qu'on se met déjà tellement de pression à titre individuel que si on se rajoute les activités des enfants, je ne sais pas combien, 3 par semaine, l'activité individuelle, parce que je dois avoir des abdos magnifiques et faire du crossfit, le couple, la famille, le professionnel...
Et puis être parent devient un métier aussi, en tout cas c'est ce qu'on lit parfois dans les revues.
Oui, coacher mon fils parce qu'il est en train de faire telle ou telle activité. Mais j'allais dire, nul n'est tenu à l'impossible. Donc déjà déculpabiliser et donc partir sur des objectifs réalistes, réalisables. Après, un autre mot moi qui me paraît essentiel, et je crois que l'exemple de Mariode le dit, c'est la métacommunication dans le couple.
Oula, qu'est-ce que c'est que ça ?
Ah ouais, non, là je fais mon malin, c'est pour ça.
Ouais.
Métacommuniquer, c'est l'art de parler sur ce dont je parle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir échanger des informations. Mais malheureusement, souvent dans les couples, maintenant, on limite la communication à un échange d'informations.
Donc c'est par exemple parler de la relation, c'est ça ?
Oui, c'est parler sur la relation et parler de la relation et comment je vis de l'intérieur cette relation. Et alors, ce qui est très bien, c'est que l'objectif crée les moyens aussi. C'est que ça demande du temps pour faire ça.
Et puis ça s'apprend.
Ça s'apprend. Et donc ça met en place des processus. Et donc vraiment, ça a une vertu rien que de vouloir déjà le mettre en place. La métacommunication.
Alors les enfants, parlons-en maintenant. Le temps et l'espace avec les enfants. Il y a une devise. Alors quand on parcourt un petit peu les magazines, en fait c'est une devise qui est parfois critiquée. C'est que c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Oui. Alors Marie-Aude, est-ce que vous défendez cette devise ou pas ?
Alors d'abord, je voudrais reprendre un peu justement au sujet des enfants, la place qu'ils ont aujourd'hui dans les familles. Les couples ont tendance à donner une place aux enfants. Sans vouloir porter jugement, trop importante. C'est-à-dire qu'ils deviennent le centre de tout. Ils occupent même l'espace. Ils jouent dans le salon. Ils mangent dans le salon. Ils regardent la télé. Ils jouent dans l'ordinateur dans le salon. Ils sont tout le temps présents. Et jusqu'au phénomène où les parents se sentent étouffés, n'en peuvent plus. En disant, mais je peux rien faire sans que les enfants soient présents. Donc déjà, de se dire comment on laisse un espace aux parents, aux enfants, quels sont ces espaces dédiés, comment les délimitations sont faites. Et elles sont souvent très obscures, très floues, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Et ça, c'est aux parents de reposer ces repères-là. Ensuite, il y a la question du temps. Ben, les enfants se réveillent 4 fois par nuit pendant plusieurs années. Les enfants viennent dormir dans notre lit. Les enfants ne veulent pas aller dormir le soir, pas avant 22 heures. Enfin, il y a toujours vraiment, les enfants occupent tout l'espace. Jusqu'à au bout de quelques années où les parents disent...
Ce qui est leur tendance naturelle. C'est...
Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que je dis que c'est aux adultes de réguler ça. Parce qu'après, les adultes, ils étouffent, ils craquent et ils disent « on n'a plus de temps pour nous ». Jusqu'à vraiment ne plus les supporter. Quand on parle de certains burn-out de femmes, familiaux, mais ça peut être des hommes aussi, qui disent « mais moi, je ne veux plus d'enfants, c'est insupportable ». Donc, il y a cette régulation-là. Et ensuite, il y a aussi le fait que... on a parlé beaucoup de ce qui concerne le couple. Pour qu'ils puissent se voir dans ce contexte, souvent, ça peut être intéressant de prendre rendez-vous. Mais ça va être pareil avec un enfant, finalement. Si tu veux, on va aller au restaurant.
C'est les fameux temps privilégiés, c'est
exactement.
Ça
exactement. Des temps privilégiés.
On les sort de la mêlée et puis on passe du temps juste avec un
seul. Tout à fait, avec un seul.
Quand on en a plusieurs, bien sûr.
Voilà, quand on en a plusieurs. Et après, on peut aussi dire aux enfants, dimanche après-midi, on se retrouvera, on fera un jeu de société ensemble. Ou alors, on leur pose la question. Dimanche après-midi, c'est un temps familial. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je suis impressionnée de voir que dans il y a quand même 7 jours dans une semaine, quelquefois, il n'y a aucun temps dédié à la famille. C'est-à-dire qu'on fait tout en famille, mais ce n'est pas réellement pour la famille. Et souvent, je dis, moi, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui avaient décrété que le dimanche, on ne faisait pas de devoirs, on ne travaillait pas, c'était que pour la famille. Et donc, tous les dimanches après-midi, on faisait un jeu de société et on goûtait en famille.
Dans les magazines, même, il y a certaines expressions, c'est la resynchronisation. On a l'impression que le dimanche, on s'arrête, on se calme un peu,
exactement.
On se recale avant de...
Et en fait, on se donne un temps et on se donne un espace. Et ça, c'est un trésor. Et aujourd'hui, je me dis, oui, ce trésor, c'est important d'aller le rechercher et de l'enrichir et de le partager avec nos enfants.
Sébastien Dex, Il paraît qu'il y a certains parents, je ne veux pas les montrer du doigt parce que je pense qu'on se sent tous concernés, qu'on appelle ça les hyper-parents ou les parents hélicoptères. J'ai trouvé l'image très bonne. Il y a des familles, au contraire, qui font des choix radicaux. Donc, c'est ce fameux slow parenting qui viendrait des États-Unis. Slow family living, j'ai vu aussi. Il y a une femme qui a écrit aussi un livre qui s'appelle La famille buissonnière. Est-ce qu'elle laisse entendre, en tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans la maxime, ce qui compte, c'est pas la quantité, mais la qualité. Il y avait un piège, c'est que ça ne se décide pas d'avoir des conversations importantes. Et en fait, l'amour, c'est aussi de passer du temps gratuitement, même s'il se passe rien. Est-ce que ça ne demande pas en fait des changements un peu radicaux ?
Si, il y a la notion quelque part de gratuité. Moi, j'entends. Parce que quelque part, sous-tendu par ce rapport au temps, il y a le fait que le temps familial est devenu finalement un miroir du temps de l'entreprise. C'est-à-dire que dans le temps de l'entreprise, ce qu'on vous demande, c'est d'être productif, efficace, opérationnel,
tout le temps.
Quelque part, même si on a tendance à dire que notre monde connaît une perte de la valeur travail, moi, quelque part, je le crois pas. Parce que même nos temps familiaux et personnels, on parle de coach, par exemple, le coaching vient de l'entreprise, quelque part. On coach même nos activités de sport, par exemple, individuelles. Donc là, vraiment, c'est apprendre, quelque part, à décorréler le temps passé avec un souci de résultat. Et c'est pour ça que moi, au-delà du quantitatif ou du qualitatif, ce qui me semble très important, c'est la qualité de présence.
Mais c'est très difficile quand les deux travaillent, quand les enfants sont à l'école. Quand on a quand même quelques activités sans en avoir 50,
c'est très difficile.
On est toujours quand même, entre guillemets, dans la to-do list.
Oui, parce que quelque part, on est aussi assez, conditionné. Et ce n'est pas obligatoirement la faute du conditionné de l'être. Il y a peut-être une remise en question un peu plus sociale et un peu plus globale à avoir, quelque part. Mais moi, je pense que la qualité de présence, elle est très importante parce que la métaphore végétale est importante. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on donne du terreau à une plante qu'on va la forcer à grandir. On lui donne les conditions dans lesquelles la croissance va être possible. Je crois que moi, c'est peut-être ça le critère à ne pas perdre de vue. C'est d'essayer de donner des moments de qualité avec la présence à notre conjoint, à nos enfants, à nous-mêmes, à notre famille. Or, ça fait beaucoup, effectivement, mais en même temps, ça peut être très rapide. L'enfant, si on parle de l'enfant, l'enfant, il a besoin de quelques minutes à la rigueur des fois, juste pour sentir ses conditions et pour que ça lui fasse du bien. Et en couple, je crois que c'est pareil, on n'a pas besoin de faire une relation d'aide de 3 heures par jour avec sa compagne ou avec son compagnon. Juste, hier, en thérapie de couple, par exemple, l'important, c'était que le compagnon montre à sa compagne qu'il avait, entre guillemets, accusé réception de ce qu'elle était en train de lui dire. Mais ça, ça prend 30 secondes. Alors peut-être que lui, ça va lui prendre plus longtemps.
Ça prend 30 secondes, mais ça demande de se poser, de réellement écouter, d'arriver...
Alors, voilà, c'était ça le comble, c'est qu'il écoutait vraiment le monsieur. Sauf qu'il ne donnait pas les moyens à sa femme de sentir qu'elle avait été écoutée.
Marie-Aude, faut-il faire la famille buissonnière, pour reprendre le titre de ce livre, j'ai bien aimé cette expression, de Patricia Chalon.
Mais écoutez, il y a de plus en plus de familles, je constate qu'ils font des choix, hein. Par exemple, enlever la télé de la maison, par exemple...
5% des Français quand même, hein.
Oui,
alors, peut-être surreprésentation parmi nos auditeurs, mais...
Peut-être, mais en tout cas, il y a vraiment des choix qui sont faits dans ce sens. Il y a des familles qui, d'une année sur l'autre, vont décider de partir pendant 3 mois avec leurs enfants, se mettre un petit peu à l'écart. Il y a des familles qui vont décider de une année de ne pas mettre leurs enfants dans des activités extrascolaires. Il y a des conjoints qui vont décider de se mettre en congé parental. Aussi bien des hommes que des femmes, et même de plus en plus d'hommes, décident de se consacrer plus à leur vie de famille pour être auprès de leurs enfants. Donc il y a des nouveaux choix, hein, qui apparaissent. On pourrait dire qu'en effet, c'est des petits choix ou c'est très particulier. En même temps, ça émerge. Donc moi, je trouve que c'est bon d'en tenir compte. Et puis, chez les jeunes, il y a aussi une nouveauté. La nouvelle génération est en train de se reposer réellement des questions. C'est-à-dire que la vie professionnelle, ils refusent qu'elle prenne autant de place que pour notre génération. Ils sont très en éveil sur leur propre épanouissement, mais leur santé, sur la qualité de leur vie sociale et sur l'impact qu'il peut y avoir sur leur vie privée. Et on a des jeunes femmes aujourd'hui qui ne veulent plus faire carrière comme ont pu vouloir le faire leur maman. Donc il y a des changements, ça se fait doucement mais sûrement, et c'est pour ça qu'on est en dehors des chiffres là.
Oui.
Et après, je voudrais juste revenir sur un temps et un espace dans la vie parentale. Vous prenez la voiture, c'est souvent un espace et un temps où les enfants ou les adolescents posent les questions les plus importantes.
Parce qu'on ne se regarde pas, on se l'a dit.
On ne se regarde pas, c'est un temps défini. On sait qu'il y a un quart d'heure de trajet. C'est un espace qui est en même temps confiné, mais du coup, on se dit, ça ne sortira pas de là. Et du coup, et même en couple, hein, quelquefois, alors ça peut déraper, mais ça peut être intéressant de profiter de ces espaces et de ces temps.
Mais alors, il paraît qu'il faut moins prendre la voiture, donc du coup, on s'en sort plus. Non, c'était une blague. Allez, je ne vais pas rajouter une brique sur notre tête. On fait une deuxième pause et on va vous retrouver. On va parler des parents. Voilà, nos parents qui souvent vieillissent, en tout cas quand on a un certain âge. Là aussi, d'apprendre à prendre du temps, à gérer ce temps, c'est aussi un point de préoccupation pour un certain nombre d'entre nous.
Exalta, exalta, vita.
Radio Présence dans le Comminges 94.1. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vite coupe, vite famille, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Marie-Aude Binet, qui est entre autres sexologue, conseillère conjugale et familiale, et Sébastien Dex, sociologue et psychopraticien. On s'est dit donc dans cette dernière partie consacrée au temps et à l'espace dans la vie de couple et dans la vie de famille, pour essayer de voir ce que l'on vit aujourd'hui, en tout cas la plupart d'entre nous. C'est vrai qu'on a, beaucoup imaginé, on va dire, des familles actives, donc des couples avec des enfants. C'est le parti pris qu'on a eu. Alors, si on continue ce parti pris, souvent ces couples, s'ils ont entre 40 et 55 ans, ils ont des parents. Et les parents d'un certain âge, eh bien, vient un moment, il faut aussi s'en occuper, leur consacrer du temps. Difficile de savoir par quoi commencer, en tout cas quand ils sont loin, puisque ça arrive de plus en plus d'entre nous. Là aussi, en fait, il faut choisir de prendre du temps parfois pour ses parents. C'est terrible à dire, mais ça se fait moins naturellement que quand on les avait dans la maison d'en face ou dans la ferme d'à côté. Sébastien Dex.
Oui, c'est sûr que l'organisation de nos vies fait que c'est de plus en plus compliqué. C'est clair. Et par contre, là où je suis surpris, moi, c'est que lorsque j'accompagne des couples, et notamment de cette tranche d'âge là, entre 40 et 60 ans, on va dire. C'est que je leur demande quelles sont les priorités de leur moment actuel de vie. Cet item de prendre du temps avec nos parents, c'est-à-dire notre famille, c'est-à-dire nos ascendants, ressort de manière très prégnante. Et ça crée souvent, justement, quelque part, une souffrance, un malaise, parce que c'est très compliqué à organiser après dans le concret. Alors, il y a des exemples un peu extrêmes où il y a quelqu'un qui habite à Toulouse parce qu'il fait partie de la grande entreprise toulousaine, mais qu'il est originaire, par exemple, d'Allemagne ou qu'il est originaire du nord de la France où il y a ses parents. Et là, on rejoint finalement que le temps, c'est aussi lié à l'espace et à la géographie.
Et donc, en gros, aller voir mes parents, c'est pour quasiment poser son vendredi pour aller passer
trois jours
à Lille.
C'est très, entre guillemets, chronophage. Sans jugement et dire qu'il ne faut pas le faire. Mais oui, concrètement parlant, c'est chronophage et c'est aussi, en termes de ressources financières, ce n'est pas évident parce que ça crée aussi un budget donc qui va impacter aussi la vie de couple. Parce que l'argent que je vais mettre à aller voir mes parents, peut-être en Alsace ou je ne sais pas où, c'est de l'argent en moins peut-être pour notre couple. Et donc là, il y a aussi à métacommuniquer, à dialoguer avec son partenaire.
Marie-Aude, est-ce qu'aujourd'hui on en est à être obligé de choisir d'avoir du temps pour ses parents, bref, de se rappeler de temps en temps qu'ils existent et qu'ils ont besoin de nous?
Alors en fait, ça va dépendre aussi de la configuration familiale, si on est enfant unique ou si on a des frères et sœurs avec lesquels on s'entend ou on ne s'entend pas. Parce que c'est aussi des moments, des périodes de la vie où on est face à ces réalités-là. Donc pour les enfants uniques, y a une forme de devoir et d'obligation à se dire il n'y a que moi, donc il faut que je sois là. Pour ceux qui sont en fratrie, souvent le frère ou la sœur qui est le plus près des parents, c'est celui ou celle qui va s'en occuper le plus, soit avec joie, soit en se disant c'est sur mes épaules que je le porte. Et puis il y a ceux qui habitent loin et qui disent comment on fait pour se relayer, etc. Et puis après, jusqu'à la prise de décision, est-ce qu'on prend papa ou maman ou les deux à côté, chez nous, à côté, est-ce qu'on leur fait construire, il y en a qui font construire des dépendances chez eux, pour leurs parents. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. On revient à un regroupement familial.
Aussi parfois pour des raisons financières.
Tout à fait, mais du coup, on revient à un regroupement familial qu'on avait quitté. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des changements dans la société intéressants aujourd'hui à observer. Et puis, alors il y a le côté financier, le côté pratique, le côté du temps, parce qu'en effet, je peux pas quitter mon entreprise toutes les 5 minutes pour aller prendre soin de papa ou de maman. Parce que si je suis loin, comment je fais pour coordonner toutes les interventions à domicile? C'est extrêmement compliqué. Donc il y a tout ça, il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte. Et après, avec l'impact sur la vie conjugale. J'ai accompagné quand même pas mal de couples. ou le fait de partir tous les week-ends ou d'aller une ou deux fois par semaine visiter le parent ou les parents a créé des conflits dans le couple en disant écoute, c'est bien gentil, mais t'es plus à la maison, moi je te vois plus. Et puis il y a les parents vieillissants peuvent avoir des troubles comportementaux qui commencent à être compliqués à gérer. Donc ben, voilà, y a, c'est vraiment des situations qui sont assez complexes. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle, mais il y a plus, comme dit Sébastien, à vraiment beaucoup en parler, déjà avec les parents ou le parent concerné, et après en couple et en famille pour se dire qu'est-ce que vraiment on désire vivre, comment on peut le vivre, et surtout avec la notion de temps, combien de temps. Si on a 6 mois à vivre cette situation, peut-être qu'on en est capable. Si c'est pour 10 ans, est-ce qu'on en est capable, et surtout, est-ce que c'est bon pour nous?
Alors, je me plongeais en préparant l'émission dans un article qui faisait le tour un petit peu de la planète, rapidement peut-être et grossièrement. Et à la lecture de cet article, on pouvait aussi constater, on enfonce un peu des portes ouvertes peut-être en disant ça, que ce sont des questions qu'on ne se pose pas ailleurs. En Afrique ou en Asie, les aînés, on ne se demande pas si ils vont nous empêcher de nous faire une soirée théâtre ou d'aller faire un peu de stretching. On les prend chez soi, on s'en occupe, on les aime. Et alors, est-ce que, enfin, c'est peut-être un peu culpabilisant de dire ça, mais je pense que tous, ça nous a traversé l'esprit. Est-ce que dans le fond, on fait pas face aussi à un moment un peu à l'impossibilité de tout conjuguer et un peu à notre individualisme, Sébastien Dax? Alors là, c'est peut-être plus le sociologue ou psychopraticien qui parle, mais...
C'est presque de l'anthropologie, là, quelque part, qu'on aborde. Mais c'est vrai que...
Ce qui ne veut pas dire que c'est l'idéal en Afrique ou en Asie.
Non,
hein,
tout à fait. De toute façon, il y a
en tout cas, il ne se pose pas la question.
Il y a une diversité culturelle qui crée... comment dire, qui donne vraiment la couleur aux relations, et notamment les relations familiales. C'est-à-dire que vraiment, suivant qu'on ait une famille française ou une famille vietnamienne ou une famille soudanaise, c'est clair qu'on ne va pas du tout avoir même la notion même de famille n'est pas la même, les liens familiaux ne sont pas les mêmes, et donc les contraintes, les devoirs et les obligations qui sont liées à cette famille ne sont pas les mêmes. Donc il n'y a vraiment pas du tout de jugement à avoir. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette situation. Mais vraiment, moi, je crois aussi par rapport à l'accueil de nos parents, de nos aînés, quelque part, c'est aussi ce qui se joue beaucoup, je pense, c'est notre propre projection aussi. Et je crois que de plus en plus, on redevient un peu conscience de ça, c'est que est-ce que moi, qu'est-ce que j'aimerais finalement? Comment ça se passe, ma vieillesse, quelque part aussi. Et là,
à l'autre ce que tu aimerais que...
Voilà, comme les vampires de ce matin, hein, c'est clair. Et je crois que ça rejoint encore là la notion de temps. En travaillant l'émission, ça m'a rappelé quelque chose. C'est qu'on parle beaucoup du présent. Et il y a un philosophe, alors j'ai plus le nom, qui disait qu'il y a 3 présents différents. Il y a le présent... Il y a le passé dans le présent, il y a le futur dans le présent, et il y a le présent du maintenant. Donc vraiment, les 3 dimensions s'articulent, et je crois d'autant plus sur des projets qui sont en relation aussi, comme on a fait l'émission il y a quelque temps, sur la fin de vie, par exemple. Ce temps présent où on décide ou pas de prendre notre parent ou nos parents à domicile, ça va venir jouer aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre passé avec ses parents? Parce que c'est pas évident, notamment pour un adulte, mais qui a été toujours l'enfant de ses parents, de prendre un père, par exemple, avec qui il y a eu du harcèlement ou de la violence ou une incompréhension, par exemple. Donc, et se projeter dans le futur, c'est se projeter aussi dans notre finitude, parce que je crois que le temps est peut-être notre boulimie, quelque part. Moi, j'ai des gens qui me disent « je suis boulimique du temps ».
C'est ce qu'on vous dit en cabinet.
Oui, par exemple. Mmh. Et souvent, là-dessous, il y a une angoisse. Et souvent, là-dessous, il y a une angoisse de mort. C'est-à-dire l'angoisse de finitude, quoi, que ça s'arrête.
Mariotte Binet, donc Sébastien Dex l'a un peu évoqué. On n'en a pas parlé, on va dire, directement. Prendre ses parents chez soi. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Français qui font ça, mais vous avez l'air de dire qu'en tout cas, c'est une question qui se pose. Probablement aussi parce que le papy-boom arrive. Hein. Je lisais un article de Famille Chrétienne qui faisait écho à un ouvrage paru déjà un certain temps, Vivre le grand âge de nos parents. On pourra le reciter à la fin, aux éditions Albin Michel. Alors, l'article de Famille Chrétienne disait il y a entre guillemets 3 choses qu'il faut avoir en tête. Anticiper les conflits et les difficultés relationnelles, ça vous en avez parlé. Prévoir les aspects matériels, aménagement de l'espace au sein de la maison, etc. Et puis, question d'argent, on imagine. Et puis, important de ne pas se passer la barre trop, c'est-à-dire pas pouvoir assurer 100% des services, distractions, consolations, soins, etc. je sais pas, prendre ses parents chez soi, c'est possible entre
guillemets. Alors aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a autant de formations pour les aidants familiaux, hein, oui. Parce qu'on sait que ça peut être chronophage et que ça peut entraîner vraiment des grosses difficultés. On peut se retrouver aujourd'hui avec des enfants de 60 ans qui s'occupent de leurs parents de 85 ans, et c'est les enfants de 60 ans qui se retrouvent à l'hôpital épuisés avec une maladie. Donc voilà, il y a quand même ces réalités-là aussi. Il y a du vieillissement dans les deux générations, en fait. Alors, c'est vrai que prendre les parents chez soi, par exemple, on prend le cas de... Si je prends mes parents chez moi, mais que je ne suis pas encore à la retraite, je dois en même temps m'occuper de mes grands-enfants, m'occuper de ma vie professionnelle, de mon couple. J'ai aussi peut-être une vie sociale, mes activités, et en plus, j'ai mon parent à la maison. C'est-à-dire que mes enfants sont en train de partir de la maison, mais je me retrouve avec, entre guillemets, un grand enfant dont il faut aussi, pour lequel il faut assurer aussi une présence. Donc quand je pars en vacances, quand, enfin, qu'est-ce qui se passe?
Grand enfant, quand la personne est très très âgée, non, mais une situation de dépendance,
oui,
etc.
Mais si vous voulez, ça peut être ressenti comme ça. C'est pour ça que je mets des guillemets, mais ça peut être ressenti comme ça. C'est à nouveau une dépendance, c'est-à-dire qu'il faut être assuré une présence et un soin. Et du coup, bah, est-ce que je suis prêt à ça? Et il y a une revendication quand même. J'ai envie d'être un peu tranquille, j'ai envie de vivre ma vie à moi. Après, on est quand même face à une génération aujourd'hui, 68arde, qui n'a aucune envie de se retrouver chez ses enfants. Donc on est aussi sur un changement de mentalité sur les paroles, sur les gens aujourd'hui qui vieillissent. Ils ont envie de garder leur liberté, leur autonomie, leur indépendance le plus tard possible.
Oui, en même temps, les petits frères des pauvres, quand on lit leurs études, ils ont fait, j'ai souvenir d'une enquête qu'ils avaient menée dans les EHPAD. Quand on creuse vraiment, il n'y a pas grand monde qui, dans le fond, a envie de vivre en EHPAD. Quoi.
Ouais. Tout à fait. Mais je veux dire, quand je parle de cette autonomie, c'est-à-dire que même aller vivre chez les enfants, ce n'est pas une projection si simple que ça. Donc c'est quelque part pareil, ça, là c'est du dialogue avec les parents. Et après, moi je rejoins ce que dit Sébastien, c'est que ça renvoie à la mort. C'est-à-dire que si je prends mes parents chez moi, je vais être face à leur mort, mais face du coup à la mienne. Et est-ce que je suis prêt ou prête à ça? Et aujourd'hui, on a quand même des crises. On parlait beaucoup de la crise de la quarantaine, mais on a de plus en plus des crises de la cinquantaine ou de la soixantaine.
De la retraite, la crise de la retraite.
Parce qu'il y a la peur de cette fin de vie, de la mort. Donc si je prends mes parents chez moi, je suis encore plus face à la mort et j'ai peut-être pas envie de la voir. Et du coup, il peut y avoir un phénomène aussi de fuite ou de mise à distance.
Il peut y avoir aussi plein de bons côtés à prendre ses parents chez soi. On n'en a peut-être pas assez parlé, mais on aura d'autres occasions, parce que c'est certainement un sujet qu'on développera. Alors, si on donnait quelques pistes, j'ai retenu un certain Serge Tisseron pour tout ce qui est du côté des écrans. Oui. Serge Tisseron, il a un site internet où vous trouverez quelques conseils, on va dire, bien sentis. Pour les parents, vivre le grand âge de nos parents, c'est donc aux éditions Albin Michel. Est-ce que vous auriez un autre livre à citer?
Alors, j'ai pas de livre, mais j'ai une auteure qui est en plus toulousaine, c'est une sociologue qui s'appelle Monique Mambrado. On peut trouver en tapant sur les moteurs de recherche des articles. Elle a écrit beaucoup d'articles autour des solidarités familiales, justement, et notamment les aidants, mais aussi le vieillir. C'est quelqu'un vraiment de très intéressant.
Monique
Mambrado. M-E-M-B-R-A-D-O. Mambrado.
Eh ben, merci beaucoup, Marie-Aude et Sébastien, voilà, de ces retours d'expérience, sans trop faire la leçon, pour cette gestion du temps et de l'espace pour la vie de couple et la vie de famille. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.